Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion, des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Bertas pour cette nouvelle chronique d'Antidote. Alors aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'une vie très courte, trop courte, à peine 34 ans. Et pourtant une vie d'une richesse inouïe, tant dans l'action que dans l'écriture, comme nous allons le voir. 34 ans, c'est en effet l'âge auquel est décédée la philosophe Simone Weil. Alors commençons par une rapide biographie. Simone Weil, elle est née en 1909 à Paris, dans une famille aisée d'origine juive. Et elle va accomplir une scolarité encore rare à l'époque pour les filles, puisqu'à l'âge de 19 ans, elle intègre l'école normale supérieure et est reçue à l'agrégation à l'âge de 22 ans en 1931. Alors, dès l'âge de 18 ans, elle s'intéresse aux questions sociales et politiques, et notamment au travers de deux thèmes qui étaient importants à cette époque, le pacifisme et l'anticolonialisme. Après son agrégation, elle occupe un poste de professeur de lycée et elle s'engage alors dans des syndicats révolutionnaires. Elle va rédiger beaucoup d'articles pour différents journaux, la Révolution prolétarienne, l'École émancipée et la Critique sociale. En 1934, elle décide d'abandonner son poste de professeur pour aller faire une expérience de travail en usine, souhaitant vivre auprès des ouvriers et comprendre concrètement leur vie. C'est une expérience qu'elle va faire pendant 2 ans. Et 2 ans après, donc en 1936, elle a 27 ans, elle se rend en Espagne et s'engage avec les brigades internationales où elle rejoint le groupe de la colonne Durruti. En juin 40, au moment de la capitulation et donc du début de l'occupation allemande, en tant que juive, elle fuit Paris pour s'installer à Marseille, où elle participe à un réseau de résistance. Mais en mai 1942, au moment de l'occupation de la zone sud, c'est un nouveau départ pour New York cette fois. New York, qu'elle quittera quelques mois après, dès le mois de décembre 42, pour rejoindre Londres. Elle s'engagera dans la France libre et elle occupera un poste de rédactrice à la direction de l'intérieur de la France libre à Londres. Voilà un petit peu un résumé de sa vie. Durant tous ces épisodes, elle n'a jamais cessé d'écrire et a produit ainsi de très nombreux textes, articles et ouvrages. Cette vie intense ne lui a pas laissé le temps de s'occuper d'elle. Atteinte de tuberculose et de malnutrition, elle s'éteint le 24 août 1943, donc à l'âge de 34 ans. Alors nous le disions, malgré sa vie très courte, Simone Weil nous a laissé une œuvre considérable qu'il me semble important de découvrir ou de redécouvrir. Alors, petite précaution, je ne traiterai dans cette chronique que de certains aspects de la pensée de Simone Weil, tout simplement parce que je suis loin d'avoir lu l'intégralité de son œuvre, et que je me contenterai des aspects de sa pensée que je connais le mieux. Alors, petit rappel, d'abord, Simone Weil vit, tout comme Orwell, dont nous en avons parlé lors de la dernière chronique, à l'époque des totalitarismes. Fascisme, nazisme, franquisme, stalinisme. Et il est intéressant de voir la lecture qu'elle en fait. Pour elle, le totalitarisme n'est pas un danger à conjurer. Il est la forme achevée de l'État tel qu'il fut conçu en France. Il est en fait le fils légitime de l'État-nation et non la spécificité d'un pays ou d'une culture. Elle nous dit qu'il est loin d'être un phénomène radicalement nouveau et géographiquement situé, éloigné et en dehors de nous. Elle va entreprendre une relecture de l'histoire de France et montrer qu'un pays, comme la France, qui se déclare exempt de totalitarisme, participe au premier chef de son apparition et que les racines sont profondes. Donc voilà sa vision du totalitarisme, quelque chose qui n'est pas inscrit dans un temps particulier de l'histoire, mais qui est bien beaucoup plus profond. Alors, cette étude de l'histoire, pour Simone Weil, c'est un élément indispensable à la compréhension du présent. Elle nous dit « Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir ». Et elle ajoute « L'amour du passé n'a rien à voir avec une orientation politique réactionnaire ». Comme toutes les activités humaines, la révolution puise toute sa sève dans la tradition. Mais Simone Veil est bien sûr consciente que l'histoire est écrite par les puissants et les vainqueurs. Aussi, elle développe l'idée de construire une contre-histoire. Pour aimer la France, nous dit-elle, il faut sentir qu'elle a un passé. Mais il ne faut pas aimer l'enveloppe historique de ce passé, il faut en aimer et en découvrir la partie muette, anonyme, disparue. Donc ça, c'est le premier point, donc autour du totalitarisme et du retour vers l'histoire pour comprendre ce type de régime. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est sa grande lucidité par rapport au régime stalinien. Dès le début des années 30, rappelons qu'elle était alors très jeune, elle définit le socialisme comme la souveraineté économique des travailleurs et non pas la machine bureaucratique et militaire de l'État. Elle constate qu'au contraire, les ouvrages du régime stalinien sont exclusivement les pièces d'une administration centralisée dont dépend toute la vie économique, politique et intellectuelle du pays. Alors elle va s'employer à lire Marx en le distinguant du marxisme. En effet, elle considère que Marx a une grande valeur dans son analyse, qui est basée sur l'étude concrète du capitalisme, mais beaucoup moins dans la définition d'un régime, en fait. Simone Veil, elle est hostile à tout fétichisme, et elle ira même jusqu'à proposer la suppression des partis politiques, affirmant ainsi l'importance qu'elle donne à la liberté de l'individu face aux appareils, et décelant ainsi sa pensée libertaire. L'autre dogmatisme qu'elle va critiquer, sans jamais rien concéder aux idées réactionnaires, c'est celui du progrès. Elle constate que si le progrès technique permet de produire plus avec moins d'efforts, cela nécessite des sources d'énergie que, je cite, « la nature ne nous donne pas, mais qu'il faut lui arracher ». Elle conteste le mythe d'une découverte scientifique qui aboutirait à une source d'énergie qui serait utilisable pour tous les besoins humains. Elle souligne aussi les conséquences et les limites de la division du travail qu'entraîne la mécanisation et l'industrialisation de la production. Elle conteste la thèse d'un accroissement illimité des forces productives, mais aussi celle d'un progrès technique infini. Plus le niveau de la technique est élevé, plus les avantages que peuvent apporter des progrès nouveaux diminuent par rapport aux inconvénients, nous dit-elle. Alors des pensées qui aujourd'hui sont beaucoup développées dans le mouvement écologiste, justement, mais qui à l'époque étaient assez rares. Un autre élément de réflexion pour Simone Veil concerne la question récurrente « réforme ou révolution ?» Pour elle, la révolution n'a de sens que comme moyen. Et elle nous dit « si la fin poursuivie est vaine, le moyen perd sa valeur ». Elle souligne la vacuité du mot « révolution » lorsqu'il n'on n'y pense pas comme à une solution des problèmes posés, mais comme à un miracle dispensant de résoudre les problèmes. Alors, elle se dit assez favorable, dans certains sens, au réformisme. Elle nous dit « le principe du moindre mal auquel il se réfère est imminemment raisonnable, mais à condition toutefois d'avoir au préalable défini le pire et le mieux en fonction d'un idéal clairement et concrètement conçu, faute de quoi on est contraint d'accepter sous ce nom tout ce qu'imposent ceux qui ont en main la force et le pouvoir. » Dans son dernier grand texte, qu'elle a intitulé « Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain », mais qui est plus connue sous le nom de « L'enracinement », c'est le titre que lui a donné Albert Camus, ce livre, elle diagnostique les maux qui affligent l'Occident. Elle les nomme le « déracinement » et le décline sous trois formes, le déracinement ouvrier, le déracinement paysan et le déracinement national. Ils sont pour elle la conséquence de la construction simultanée d'une économie capitaliste et de l'État-nation. L'économie capitaliste a déraciné les travailleurs, l'État-nation a détruit les réalités sociales intermédiaires, communautés locales, familles, associations. Et elle va opposer à ce déracinement la notion d'enracinement. Et là, je cite une longue citation qui me semble très importante dans la pensée de Simone Veil. L'âme humaine a besoin par-dessus tout d'être enracinée dans plusieurs milieux naturels, et de communiquer avec l'univers à travers eux. La patrie, les milieux définis par la langue, par la culture, par un passé historique commun, la profession, la localité, sont des exemples de milieux naturels. Et elle ajoute « Est criminel tout ce qui a pour effet de déraciner un être humain ou d'empêcher qu'il prenne racine. » Alors on voit qu'elle est vraiment à l'encontre de certains modernismes, mais sans jamais, encore une fois, concéder aux idées réactionnaires. Mais c'était à cette époque extrêmement prégnant, cette pensée, et assez unique en fait. Alors, il y a un dernier élément de la pensée de Simone Veil que je veux souligner et qui concerne l'importance qu'elle donne à la diffusion des connaissances dans la population tout entière, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'éducation populaire. Elle va participer activement au groupe d'éducation sociale fondé par le cheminot Lucien Cancoué dans le prolongement de l'œuvre éducative et culturelle des Bourses du Travail qui avait été animée à la fin du XIXe siècle par Fernand Pelloutier. Elle conçoit l'éducation sociale comme une entreprise d'instruction mutuelle dans une perspective d'éducation libertaire. C'est-à-dire de reconnaissance de l'individu, de l'individualité dans les groupes. Elle reviendra à plusieurs reprises dans ses textes sur cette question fondamentale de l'accès de tous à une culture intellectuelle et à ses obstacles. Et le principal obstacle étant, d'après elle, la condition salariale. Je la cite à nouveau. La pensée étant par essence libre et souveraine, comment être libre et souverain en qualité de pensant pendant une heure ou deux et esclave le reste du jour ? Elle préconise aussi un rapprochement entre ouvriers et intellectuels, mais consciente des questions que ça peut poser, elle propose des modalités pratiques afin que le savoir ne se transforme pas en pouvoir sur ceux qui en sont dépourvus, mais pour qu'au contraire se développe réellement un principe d'éducation mutuelle. Cette partie est très intéressante quand on s'intéresse, la partie de l'œuvre de Simone Veil, quand on s'intéresse à l'éducation populaire aujourd'hui. Voilà pour ce trop rapide tour d'horizon de la pensée de la très jeune Simone Veil. Une pensée multiple, parce qu'une de ses amies l'a comparée à Vishnu, le dieu aux multiples avatars, c'est dire. Alors, entrer dans les écrits de Simone Veil nous donne à chaque page l'impression que c'est notre histoire que nous écoutons, tant ces réflexions peuvent alimenter notre compréhension du monde présent et aussi nous donner espoir en l'avenir sans pour cela, et ça c'est très important, reposer sur des espérances creuses. En fait, elle nous bouscule, elle nous donne beaucoup à réfléchir. Je vous encourage donc vivement à vous plonger dans la lecture des écrits de Simone Veil. Alors vous trouverez différents ouvrages de Simone Veil à la bibliothèque municipale de Florac, également auprès du fonds documentaire de Savoir en chantier, qui est situé dans les locaux de L'Encrier à Florac, et bien entendu, vous pouvez vous les procurer auprès de votre libraire. J'ajoute que la plupart des ouvrages de Simone Veil sont édités en poche, ce qui fait qu'ils ne sont pas très chers. Enfin, je vous propose de venir approfondir les questions abordées dans cette chronique le dimanche 28 novembre à 18h à L'Encrier, où j'animerai une causerie autour de Simone Veil et des différents aspects de sa pensée que nous avons abordés dans cette chronique. Et Radio Bartas ne manquera pas de rappeler cette date dans ses annonces. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons bientôt pour une prochaine chronique où je vous inviterai à découvrir ou de redécouvrir l'œuvre de Christopher Lasch. Alors Christopher Lasch est un auteur, je vous l'accorde, bien moins connu que George Orwell et Simone Veil, un auteur états-unien, mais dont la pensée me semble faire écho à notre actualité. Il est l'auteur, entre autres, de « La culture du narcissisme ». Je ne vous en dis pas trop plus, et on se retrouve pour une prochaine chronique. À très bientôt.